Affaires étrangères des Émirats arabes unis pour son allocution. Je donne à présent la parole à son Excellence Kay Shanmugam, ministre des Affaires étrangères et ministre du Droit de Singapour. Vous avez la parole, Excellence.
Dear colleagues, I warmly congratulate you.
Chers collègues, je tiens à féliciter Son Excellence M. John Ash, qui a été élu à la présidence de la 60e session de l'Assemblée générale. Je lui souhaite beaucoup de succès. Monsieur le Président, cette dernière décennie, le monde a connu toute une série de crises. Le développement s'est ralenti et la confiance dans le système économique mondial a été ébranlée. Il y a des signes de reprise, mais la croissance demeure anémique et inégale. Le taux de chômage est élevé dans plusieurs pays, notamment pour les jeunes, ce qui a exacerbé des problèmes tels que une augmentation de la pauvreté, un élargissement des fractures dans les revenus, l'instabilité sociale et une diminution de la confiance publique dans les gouvernements et les institutions. La pauvreté extrême demeure une préoccupation majeure dans bien des parties du monde. La violence et les conflits sont également de grandes menaces à la stabilité mondiale, tout comme la pauvreté. La communauté internationale doit réagir fermement à de telles menaces. À cet égard, Singapour se félicite de l'adoption à l'unanimité de la résolution 2118 du Conseil de sécurité sur la destruction des armes chimiques en Syrie. Nous condamnons vivement l'utilisation d'armes chimiques, quelles que soient les circonstances. Il s'agit d'une violation du droit international. Nous demeurons profondément préoccupés par la situation humanitaire en Syrie. Nous espérons que la conférence de Genève 2 sera organisée rapidement pour trouver une solution politique et mettre un terme au conflit et à la violence. Nous exprimons nos condoléances au gouvernement et au peuple du Kenya après l'attentat brutal qui a eu lieu dans Westgate Mall. C'est un rappel douloureux de l'importance de la vigilance face au terrorisme. Tous les pays doivent présenter un front uni face à la violence et à la terreur afin de créer un environnement qui permette le développement durable. L'écosystème mondial est également fragilisé en raison des effets transnationaux des activités du développement humain. Le progrès humain s'est produit au détriment de l'environnement et a entraîné le changement climatique, le déboisement, la désertification et la pollution transfrontière de la mer, de l'eau et de l'air ont dégradé nos qualités de vie et menacé la civilisation humaine. Nous ne pouvons pas faire comme si de ne rien n'était. Nous devons repenser nos économies et nos sociétés, les doter d'instruments nouveaux. Nous devons mettre l'éradication et la durabilité au cœur de notre programme de développement. Le choix du président, programme de développement de l'après-2015, préparer le terrain, pour thème de cette session de l'Assemblée générale, arrive à point nommé. La commission de Brundtland de 1987 définissait le développement durable, je cite, « comme le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins ». Cela devrait constituer notre principe directeur alors que nous négocions le programme de développement de l'après-2015. Les Nations Unies ont un rôle essentiel à jouer dans l'élaboration de ce programme de développement de l'après-2015. Seule l'ONU, qui se caractérise par l'universalité de ses membres et un accès important aux données mondiales, seule l'ONU a la capacité d'établir un programme de développement mondial nouveau qui soit sans exclusive, efficace et adaptable. Les Nations Unies ont adopté une approche ouverte à parties prenantes multiples pour réunir l'avis des États membres et tirer profit de l'énergie de la société civile. Plusieurs mécanismes, y compris le forum politique de haut niveau, le groupe de travail ouvert sur le développement durable auquel Singapour participe activement et le groupe de travail sur le développement, sur le financement du développement durable ont été créés. Nous encourageons les Nations Unies à jouer un rôle de chef de file et à insérer ces différentes discussions dans un cadre unique et clair. Cela permettra aux États membres de concentrer leur attention et fixer des priorités pour relever ces défis critiques. Singapour comprend bien l'importance de l'éradication de la pauvreté et du développement durable pour l'avenir d'un pays. Lorsque nous sommes devenus indépendants en 1965, nous nous sommes heurtés à des défis multiples. Pour améliorer le sort de notre population, où seule une poignée étaient des travailleurs qualifiés et des diplômés, le gouvernement a mis l'accent sur l'éducation et le renforcement des compétences. Pour créer des emplois et diminuer la pauvreté, nous avons également progressivement développé notre secteur industriel vers des secteurs à forte dose d'innovation. Eu égard aux contraintes terrestres et aux contraintes en termes de ressources pour Singapour, le développement durable était un impératif, pas uniquement un slogan. Singapour compte 700 km², c'est un petit peu plus grand que Manhattan, mais plus petit que les 5 arrondissements de New York. Pour faire en sorte que notre ville-État demeure vivable, nous devions faire en sorte que nos politiques de logement, d'infrastructures, de transport et d'environnement étaient bien intégrées dans une vision à long terme et globale. Pendant plusieurs décennies, nous avons réussi à promouvoir la croissance tout en préservant un bon environnement de vie. Par exemple, en dépit d'une population très dense et d'une forte urbanisation, nos efforts pour rendre la ville plus verte a donné pour résultat que 50% du territoire de Singapour est couvert par la végétation. Les jardins botaniques de Singapour, fondés au 19e siècle, est le seul jardin botanique au monde qui inclut un segment original de la forêt tropicale. En dépit de notre développement rapide, nous avons réussi à préserver notre diversité, biodiversité, l'une de nos réserves naturelles, Bukit Timah, accueille plus d'espèces végétales que tout le continent nord-américain. Nous avons également trouvé des solutions créatives pour surmonter certains de nos problèmes en termes de ressources. Prenons l'exemple de l'eau. Singapour importe à présent plus de 40% de son eau. Pour répondre à nos besoins d'eau potable et nos besoins industriels, nous avons utilisé plusieurs méthodes, notamment la collecte d'eau dans les réservoirs, le dessalement de l'eau de mer, une technologie de pointe utilisant une membrane pour transformer les eaux usées en eau de très grande qualité, ce que nous appelons New Water. Lorsque le secrétaire général Ban Ki-moon s'est rendu à Singapour en mars 2012, il a été impressionné par notre gestion de l'eau et il a porté un toast avec New Water plutôt qu'avec du vin, en disant que New Water était quelque chose de bien plus précieux, à savoir l'élixir de vie. J'aimerais à présent parler du programme de développement de l'après-2015 et suggérer trois domaines prioritaires. D'abord, nous devons tirer les enseignements des objectifs du millénaire pour le développement. Nous devrions éviter d'être trop normatif. Chaque pays est unique, les pays devraient donc pouvoir avoir une certaine marge de manœuvre en choisissant leurs objectifs. La nouvelle feuille de route pour le développement mondial devrait placer en son centre l'éradication de la pauvreté, le développement durable et devrait s'articuler autour d'une série d'objectifs quantifiables et pratiques. Nous devons axer notre approche sur les résultats, ne pas oublier que l'objectif principal du programme de développement de l'après-2015, c'est l'amélioration du sort de nos populations. Aujourd'hui, 1,2 milliard de personnes vivent toujours dans la pauvreté extrême. C'est un chiffre stupéfiant. En deuxième lieu, nous devrions améliorer notre gestion de l'espace urbain et gérer au mieux les questions liées de façon intrinsèque d'eau et d'assainissement. D'après UN Habitat, plus de la moitié de la population mondiale vit dans les zones urbaines. D'ici à 2050, 7 personnes sur 10 devraient vivre dans les zones urbaines. Plusieurs villes sont déjà en difficulté. Plus de 2,5 milliards de personnes n'ont pas accès à l'assainissement de base. 800 millions n'ont pas accès à l'eau potable. 2000 enfants meurent chaque jour de la diarrhée. Ces crises seront encore exacerbées alors que de plus en plus de personnes déménageront dans des villes déjà surpeuplées où l'infrastructure ne peut pas suivre. Singapour a présenté une résolution en juillet qui a été adoptée par l'Assemblée générale pour désigner le 19 novembre comme la Journée internationale des toilettes. Nous espérons que cela permettrait au pays d'examiner avec soin le lien existant entre urbanisation, eau et assainissement et comment ce lien peut être géré au mieux. En troisième lieu, il est important pour les de tenir compte des avis et des préoccupations des petits États dans le programme de développement de l'après-2015. Les petits États représentent plus de la moitié des membres des Nations Unies. Beaucoup de pays, et surtout les petits États insulaires en développement, font partie des membres les plus vulnérables de la famille des Nations Unies. Singapour se reconnaît dans les préoccupations urgentes des autres petits États insulaires en développement. La troisième conférence des PUID en 2014 constituera un jalon important. Singapour a participé activement à toutes les réunions préparatoires. Lors de la conférence inaugurale de l'année dernière sur les petits États, qui était organisée par le Forum des petits États, le secrétaire général Ban Ki-moon en est convenu, les petits États vulnérables méritent une attention toute particulière. Singapour continuera à collaborer avec les membres du Forum des petits États pour présenter les perspectives des petits États et pour faire en sorte que nos points de vue soient intégrés dans l'élaboration de la nouvelle feuille de route pour le développement mondial. Même si Singapour est un petit pays, nous continuons à jouer notre rôle et à épauler d'autres pays pour les aider à éradiquer la pauvreté et pour promouvoir le développement durable. Nous avons créé le programme de coopération de Singapour en 1992 pour présenter notre expérience de développement à nos amis, présenter nos succès et nos erreurs. Nous pensons que l'assistance technique et le renforcement des capacités sont particulièrement efficaces pour créer des conditions propices à la croissance. Plus de 80 000 fonctionnaires de 170 pays ont bénéficié d'une formation au titre du programme de coopération de Singapour dans différents domaines tels que le développement urbain durable, la gestion de l'eau et le développement des ressources humaines. Pour étayer notre engagement en faveur du programme de développement post-2015, nous allons mettre au point de nouveaux programmes sur le développement durable et sur le changement climatique pour répondre aux besoins des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés. Singapour a également travaillé de concert avec d'autres gouvernements pour promouvoir le développement durable sur la scène internationale. En 2007, Singapour et la Chine ont lancé un projet conjoint pour développer la ville écologique Sino-Singapour Tianjin. Cela devrait devenir une ville qui sera socialement harmonieuse, respectueuse de l'environnement et économe en ressources. Cela deviendra un modèle pour l'urbanisation durable en Chine. D'ici à 2020, cette éco-ville devrait offrir un environnement de vie vert à faible émission de carbone, représentant la moitié de Manhattan et accueillant 350 000 personnes. Singapour continuera également à présenter son expérience sur l'urbanisation durable par le biais d'événements que nous organiserons, tels que la Semaine internationale de l'eau et les sommets des villes du monde. La seule façon de garantir notre futur collectif, c'est en éradiquant la pauvreté et en promouvant le développement durable. Les deux prochaines années seront critiques pour le monde, alors que nous entamons un voyage ambitieux pour cartographier le programme de développement de l'après-2015. Les Nations Unies doivent jouer un rôle de chef de file.